Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM avec un nouveau numéro de Time Sport, votre quotidienne sportive. Et ce soir, comme d'hab, la réalisation en la personne de Yannis et aussi Giovanni, voilà, qui débarque avec nous dans cette quotidienne sportive. Vous laisse les commandes du standard, le 01 53 48 3000. On rappelle le numéro pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Au menu de cette émission en ce mercredi 20 octobre 2021, le gamin de Bondy qui est Kylian Mbappé, la star numéro 1 du PSG, Benzema toujours là et décisif, il marque encore des points pour ce fameux Ballon d'Or 2021. On accueillera pour la première fois sur notre antenne Nicolas Paquier, entraîneur d'handball qui réalise le premier playbook d'handball aux éditions Amphora. Sans oublier la NBA, le championnat nord-américain de basketball qui reprend. Allez, place au JT Sport de Diazone, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Bonjour à tous, on démarre ce JT par la fameuse affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Le procès a démarré ce matin au tribunal de Versailles. L'ancien Marseillais était bien présent, contrairement à l'attaquant du Real Madrid, qui lui sera représenté par ses avocats, et ce jusqu'à vendredi, date de la fin du procès. En Ligue des Champions, c'est au tour du LOSC ce soir de représenter la France en accueillant le FC Séville. Les Lillois, dernier du groupe avec un point, doivent impérativement s'imposer, et ce malgré l'absence de Sven Botman en défense centrale aux côtés de José Font. Enfin, en Angleterre, Steve Bruce, le coach de Newcastle, a lui été licencié de son poste d'entraîneur. Avant-dernier de Première Ligue avec aucune victoire, l'Anglais a donc été logiquement remercié, sans remplaçant pour le moment. Voilà, c'est tout pour ce soir, en vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Comme d'habitude, Jason avec nous ce soir justement pour en parler du Paris Saint-Germain, de toute cette actualité sport. Eh bien, il revient, voilà, pour lui, il fait sa rentrée. Allez, au mois d'octobre, c'est Mickaël. Comment ça va, Mickaël?
Salut Bilou, bonsoir à tous. Bah ça va, hein, comme tu dis.
Un plaisir de te voir.
Ah bah ça fait plaisir d'être ici aussi, et bah ça fait un moment que je suis pas passé, donc j'espère que
on va voir
que je vais être au niveau ce soir.
À la hauteur, tout yes. Comme Abdel qui est avec nous. Abdel, comment ça va?
Ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là comme d'habitude, Bilal.
Ah ben nous aussi, Abdel, avec ces magnifiques interviews fait sur la pelouse de l'Orange Vélodrome en compagnie de Jouba. Louis-Marie est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Louis-Marie?
Super fort. Si j'avais pas le dos bloqué, je viens malgré la douleur ce soir.
Il est chaud, Louis-Marie. On l'écoute, Louis-Marie, depuis Toulon et Sarade. Et sans oublier cette fameuse région parisienne. Eh oui, Yannis et ses amis qui sont toujours là à l'affût de toutes ces infos de Time Sport. Viknesh est avec nous. Comment ça va, Viknesh?
Salut, Bilal. Salut tout le monde. Ça va très bien.
On t'a perdu de vue, Viknesh, hein?
Non, pas du tout.
Ah ouais, moi, on m'a dit que tu fais. Ouais, ben justement, tu allais faire un peu la fiesta du côté de la région catalane.
Ah non, j'étais en déménagement surtout.
Ah ouais, le déménagement. Il y en a toujours des déménagements dans cette émission. Les consultants, ils en font beaucoup trop. Alors, on va passer avec le Paris Saint-Germain. Un magnifique moment, on l'espère en tout cas.
Time Sport, le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Eh oui, groupe A, troisième journée de cette phase finale de l'édition 2021-2022 de la Champions League. Avec justement le Paris Saint-Germain face à Leipzig et le doublé d'un certain Léo Messi qui fait du bien pour les supporters parisiens, mais aussi les supporters français, voire à l'échelle mondiale. Oui, Marie.
Bah écoute, oui, ce doublé fait du bien, surtout que le PSG a beaucoup manqué de maîtrise hier. Moi, j'ai pas vu une équipe qui maîtrisait son sujet. C'est un petit peu dans la difficulté, le PSG, cette année. Alors, on peut pas du tout critiquer le bilan sportif, parce que concrètement, mathématiquement, ça gagne quasiment tous les matchs. Ils sont très bien placés après trois journées des champions. Donc, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai toujours un petit arrière-goût dans la bouche qui me fait penser que ce PSG, il n'est pas équilibré tactiquement.
Il n'est pas équilibré?
J'ai toujours pensé, depuis le début, les arrivées de cet été, je suis persuadé que cette équipe, elle n'est pas faite pour jouer à quatre derrière. Ouais. Parce que, on l'a encore vu hier, ça laisse beaucoup de place dans le dos. Nuno Mendes, il est bon, il est très bon offensivement, comme Hakimi de l'autre côté. Mais défensivement, ça laisse des courants d'air. Moi, j'aimerais voir cette équipe à trois derrière, mais ça viendra peut-être avec l'arrivée, s'il arrive un jour, de Sergio Ramos. Mais ouais, pour l'instant, cette équipe, elle me paraît déséquilibrée, voilà, et je trouve que du coup, on s'en remet beaucoup, elle est un peu coupée en deux, et on s'en remet beaucoup à la vitesse de Mbappé dans la profondeur. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe.
Ouais. Alors, Abdel, tu es d'accord avec ce que tu dis?
Oui. Pas forcément dans le sens.
Allez, vas-y.
C'est un système qui peut être utilisé, je suis d'accord. Après, je pense que hier, Leipzig a très bien joué son coup. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de jouer dans ce dispositif-là, pardon. Donc, ils ont bien fait tourner Paris de droite à gauche, et surtout rapidement, contrairement à ce qu'a pu faire City il y a deux semaines. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit Paris à réaction depuis le début de la saison. Même en menant au score, ils ont réussi à se faire repasser devant et à perdre 2-1.
Ouais.
Et voilà, on les a vus dans une configuration qui réussissent bien cette année. Ça veut dire retourner le score pour repasser devant. Donc, je pense que c'est la marque de fabrique du PSG. Limite, se faire dominer et se faire mener au score pour voir leur vrai visage. Maintenant, par rapport
est-ce que c'est se faire. Je me parle juste pour voir par rapport à ton intervention. C'est juste. Moi, ce qui me gêne, tu me dis, ils sont en réaction très bien, mais est-ce que c'est pas justement un aveu de faiblesse parce qu'ils savent pas maîtriser le jeu et qu'ils sont dans un jeu de transition.
Je pense pas. Alors, parce que contre City, par exemple, ils l'ont bien fait. Je pense que c'est selon l'adversaire comment ils dosent le truc, ils dosent leur comment on appelle ça, leur niveau et la manière de se mettre en pression. Je pense qu'ils savent le faire contre n'importe quel adversaire. Ils l'ont fait contre City. Je pense qu'ils peuvent le faire contre d'autres. Maintenant, Leipzig, le fait que voilà, ils nous aient mis en difficulté, je trouve que ça a été intéressant. Après, pour revenir sur Messi, on en parlait ici. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec Mourad. On lui passe le bonjour.
Alors,
c'est que Messi est là pour être un homme de coup. Ça veut dire qu'il va pas être présent 90 minutes, mais il va être là pour mettre un, voire deux buts. Mmh. Et après, hier. Avant de laisser la parole, c'est que des mecs comme surtout Herrera et Gueye ont été un peu en deçà par rapport à leur niveau du début de la saison. Donc ça explique aussi pourquoi Paris a été mis en difficulté. Mais bon, je trouve que voilà, ça a été un match correct, ça a été un beau match de football en tous les cas.
Selon toi, Michael, Viknesh, et on aura aussi des personnes au standard.
Je trouve pas forcément que ce soit un aveu de faiblesse de subir. Après, il y a différentes façons de subir. Par exemple, là, contre Leipzig hier. Dès le début du match, Keylor Navas, il est mis à contribution. On voit de grosses erreurs défensives, notamment de la part de Kimpembe. L'axe gauche, Kimpembe, Nuno Mendes, ça marche pas bien, parce que Nuno Mendes est très offensif et Kimpembe, il est vraiment pas dans une forme optimale en ce moment. Et hier, par exemple, ça joue beaucoup, je pense, sur les individualités, parce que si tu joues avec un bloc bas, si c'est la façon de voir les choses de la part de Pochettino, c'est pas forcément un souci, mais il faut que, par exemple, Herrera et Idrissa Gueye fassent un meilleur match que ce qu'ils ont fait hier contre City. C'était moins problématique, le bloc était quand même plus compact, et hier il y a vraiment eu des trous d'air au milieu de terrain et ils se sont engouffrés, mais comme dans du beurre. Et on a été trop mis en difficulté trop facilement.
Moi, ce qui me gêne avec vos interventions à tous les deux,
le mari, on n'a pas eu encore
les. Je suis pas en désaccord avec vous sur l'analyse, qui me paraît juste sur le jeu. Mais moi, ce qui m'embête, c'est quand j'entends certains commentaires dire, bah oui, mais ils s'adaptent à leur adversaire. Est-ce qu'une équipe qui veut gagner avec des champions doit adapter son niveau et son style de jeu à son adversaire, ou doit faire l'adversaire s'adapter à elle? Moi, c'est ça qui me gêne. Aujourd'hui, le PSG. Alors peut-être que c'est qu'un début de saison, mais je ne vois pas encore. Là où veut en venir Pochettino.
Tu vois, Louis-Marie, quand tu vois les gros matchs sous Pochettino depuis qu'il est en place, il y a le match contre le Bayern, donc la victoire à Munich. Pareil, ultra dominé et les occasions, tu les mets au fond.
Donc t'en poses pas ton jeu, tu défends et tu contres.
Exactement, pareil pour le Barça, le 4-1, mine de rien, t'avais pas non plus énormément le ballon. T'as les occasions, tu les mets au fond.
Donc tu me rejoins sur l'idée du jeu de transition.
C'est un jeu de transition. Après,
il a pas ce style de jeu. Pochettino, dans tous les cas où il a.
Ça peut être son style de jeu, Abdel.
Non, c'est un style de jeu. Mais laisser du coup le il y en a beaucoup qui voient le fait d'avoir le ballon comme un style de jeu.
Je te parle pas d'avoir le ballon. Je te dis juste que moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu laisses beaucoup. Tu peux jouer un jeu de transition, mais sans laisser autant d'opportunités aux adversaires. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'adversaires.
Alors le mari, tu réponds.
Juste le mari.
Attends, Abdel.
Comment tu veux garder? Honnêtement, si tu penses avec les joueurs que Pochettino a sous la main là aujourd'hui, notamment au milieu de terrain, tu penses qu'il peut mettre en place un vrai jeu de possession?
Je n'ai jamais parlé de jeu de possession, les garçons. Hein. Si tu écoutes ce que je te dis, Mickaël, moi je dis juste qu'on peut mettre en place un jeu de dépossession, un jeu de contre, un jeu de
dépossession.
Pourquoi pas? C'est plutôt un terme de rugby, mais pourquoi pas un jeu où tu te nourris de la force adversaire, mais dans ce cas-là, il faut mettre l'équipe pour. Et moi, ce qui me gêne, c'est que je suis pas sûr que le PSG et les joueurs sur les côtés défensivement pour avoir un jeu où tu subis. Parce que à partir du moment où tu as deux arrières latéraux qui ne sont pas des défenseurs dans l'âme, ça ne peut que mal se passer. En tout cas, ça va laisser des opportunités. On parlait du match du City qui a été gagné. Il a beau avoir été gagné, ils ont laissé beaucoup d'opportunités. Et le jour où l'équipe, si Leipzig est plus réaliste hier, il peut y avoir 3-0, il peut y avoir 3-1. Il peut y avoir un vrai problème.
Par rapport à ce que tu dis, Abdel. Je suis pas sûr qu'on ait que Paris et les latéraux n'aient pas les latéraux pour défendre. Je pense que Hakimi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui monte beaucoup, mais il fait ses prestations défensivement. Nuno Mendes, c'est son troisième match en Ligue des Champions.
Depuis la 19 ans, il est encore
maléable. Faut qu'il découvre. Après, c'est vrai qu'il est pas aidé avec Kimpembe qui est en grande difficulté. Après, pour tenir le ballon de temps en temps, c'est vrai que, comme on l'a dit il y a quelques temps, le fait d'avoir mis Verratti devant la défense, ça te permet de sortir de galère, ça permet d'avoir des temps forts de possession. Mais je pense que Pochettino, pour l'avoir fait remarquer ici, son ADN face aux grosses équipes, c'est de jouer en bloc, de laisser le ballon et d'aller en
attaque. Oui, mais tu concèdes des occasions. Oui, le problème, c'est que tu peux jouer en bloc sans concéder des occasions, comme fait Simeone avec l'Atlético.
Oui,
le PSG concède beaucoup, trop d'occasions pour l'instant.
T'en concèdes, ouais. Ça veut dire quoi, concéder? Parce que c'est pas forcément qu'elles sont dangereuses, t'en concèdes.
Bah, si,
non,
Abdel,
mais
Hier,
Navas s'est mis à contribution.
Oui, Abdel.
Contre le Bayern, ok, t'es mis à contribution. Mais il y a des matchs où, je vais vous dire quelque chose, c'est vrai que le gardien.
Enfin, Navas fait des. L'année dernière, le meilleur joueur du PSG en Ligue des Champions, c'est Navas, c'est quand même symptomatique.
On termine, Abdel.
Je finis ça, mais Navas, il a été recruté pour ça, il y avait un gros déficit.
Non, mais ça, c'est pas le sujet.
Bah si, pour le Paris Saint-Germain. Vous dites qu'on subit, que Paris subit, etc. Donc, il y a un gardien qui est là qui fait des arrêts. On peut pas dissocier le fait de
non mais ce que je veux juste
jouer comme ça.
Non mais ce que je veux juste te dire, Abdel, c'est que tu peux jouer.
Merci Abdel, merci Dumarey.
Le fait de prendre,
je n'ai pas entendu. On va revenir à toi Dumarey.
D'avoir un bon gardien
et aussi à toi Abdel. Allez, Viknesh, on l'écoute. Viknesh, on n'a pas entendu Viknesh.
Je suis totalement d'accord avec Dumarey et moi j'irais même plus loin en fait. Parce que là, les joueurs du PSG, s'ils ne sont pas à 100% en Ligue des Champions, ils se font dominer, ils se font manger au milieu de terrain notamment. On a loué ce milieu de terrain contre City, ils étaient bons, certes, il faut le dire, mais hier, ils ont été inexistants. Ils n'ont pas été à 100% et ils se font manger par le milieu de terrain de Leipzig. Et ça, c'est incroyable. En Ligue 1, ça peut passer parce qu'en Ligue 1, ils sont supérieurs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais dans les gros matchs, certes, le PSG a énormément de victoires contre le Bayern, le Barça, etc. Mais il faut noter que le gardien a un rôle considérable. Et ça, pour un club comme le PSG, moi je trouve que c'est pas bien du tout. Parce que le PSG doit avoir le ballon, doit dominer, doit être maître du match. C'est lui qui a décidé qu'est-ce qu'il fait, à quel moment, s'il se laisse un peu dominer, mais tout en contrôlant le match. Et chaque fois, même contre City, vous n'allez pas me dire que contre City, on mérite de gagner. Le PSG mérite de gagner. Ils font le match 10 fois, ils le perdent 9 fois sur 10.
Pas du tout,
je suis pas d'accord. Sans aller aussi loin.
Laisse-le terminer. Messieurs, s'il vous plaît.
Après, s'il vous plaît. On dit, oui, le gardien a été bon. Bah, heureusement qu'on a des gardiens au PSG. Navas,
Donnarumma. Ah bon, et ça a été un des meilleurs. Non, mais tu peux pas dire ça parce que ça a été un gros problème avant.
Oui.
Dire qu'il n'y avait pas un gardien qui était là maintenant.
Oui, mais maintenant.
Quand il subit des occasions et qu'il les arrête, on dit, il
doit pas concéder. Oui, mais justement, tant mieux. Alors, heureusement.
Hier, le fait que les milieux de terrain sont un peu en deçà, certes, mais ça peut arriver dans des matchs.
Maintenant, ça arrive.
Merci Abdel, merci Viknesh. Oui, Marie, on revient à toi, vas-y.
Non, mais Abdel, ce que tu comprends pas dans ce qu'on te dit, c'est pas de pas féliciter Navas quand il fait un bon match. Tu as raison, on a un grand gardien au PSG. S'il fait des bons matchs et qu'il fait les arrêts, tant mieux. Le problème que je souligne, c'est que quand tu décides de jouer bas, tu peux décider de jouer bas sans concéder d'occasion. Le meilleur exemple qu'on ait vu ces dernières années d'une équipe qui acceptait de jouer bas et de contrer, c'était l'équipe de France en 2018. Malgré tout, elle concédait 2-3 occasions maximum par match. On regarde contre la Belgique, on ne concède aucune occasion quasiment du match en acceptant de jouer bas. Le problème de ce PSG aujourd'hui, c'est qu'il, visiblement, ce que me disent Abdel et Michael, c'est que c'est la tactique de Pochettino d'accepter de jouer bas.
Mais il a pas
Sauf qu'il prend. Non, mais attendez, je réponds.
Laisse terminer.
Oui. Ça serait la tactique de jouer bas, sauf que, en jouant bas, il concède énormément d'occasions. Donc ça ne marche pas. Le jour où ils vont tomber sur une équipe qui sera réaliste en face, ils peuvent prendre beaucoup de buts. On me repart des matchs de l'an dernier. Je suis désolé, contre le Bayern à l'aller, c'est un miracle. Il faut un énorme miracle. Ils peuvent en prendre 5, 6 ou 7. C'est fou.
Je trouve pas qu'ils jouent bas.
Oui, mais Michael,
je trouve pas qu'ils jouent forcément bas. Je trouve qu'ils jouent en bloc, alors, mais pas forcément. Voilà, forcément bas, contrairement à l'équipe de France et les exemples que tu as cités.
Je pense que c'est le but, je le redis, je pense que c'est le but de Pochettino. Après, maintenant, j'ai pas envie de.
Un petit peu décrié.
Non, mais après,
toujours menacé. Zidane avait refusé le Paris Saint-Germain.
Je suis pas là pour défendre Pochettino ou quoi que ce soit parce que.
Ouais.
Mais je l'attaque pas personnellement.
Il demande du temps, voilà. Bon, le temps, il commence à passer.
Mais
etc.
Ça fait depuis janvier.
Mais maintenant, Mauricio Pochettino, il a peut-être une tactique en place, en tête. Le truc, c'est que maintenant, tu lui donnes des cartes en main. Va te débrouiller avec ça, parce que quand
se débrouiller avec l'effectif du PSG, t'es sûr de ce mot-là?
Écoute, quand tu dois jouer, excuse-moi, quand tu dois jouer avec un ligne avec Neymar, Messi et Mbappé devant. Je suis désolé, mais tu joues le déséquilibre de base. Tu peux pas jouer l'équipe avec ces trois mecs-là.
Non, mais là, d'accord, tu parles de déséquilibre offensif. Et je te rejoins, parce qu'effectivement, on est d'accord que Messi et Neymar, ça joue pas comme Mbappé. Mais moi, le problème, c'est, enfin, pas d'équilibre offensif, je parle d'équilibre défensif
mais
en
oui,
ce moment.
Mais justement,
bah, et pour moi, c'est pour ça que.
Moi, je. Tu donnes l'exemple de Simeone.
Alors.
Tu donnes l'exemple de Simeone. Mais Simeone, c'est un bloc compact. C'est toute l'équipe qui défend. C'est les mecs, les.
On est d'accord, ça.
Il a pas tort, là. Oui.
Donc, du moment où tu vas placer trois attaquants, comme tu l'as du côté du Paris Saint-Germain, et même quatre des fois avec André Di Maria,
ouais.
Ce qui pour moi est un non-sens total, parce que déjà avec 3 c'est compliqué, alors avec 4 voilà.
Ouais.
Mais quand tu places ces 3 là sur le terrain, tu dois jouer obligatoirement le déséquilibre, et c'est aussi pour ça, je pense que oui, c'est la place d'un Navas ou la place d'un
Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je pense que tu dois accepter aujourd'hui que le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Viknesh, le Paris Saint-Germain ne sera pas.
On va revenir.
Non mais juste une chose.
Le droit de réponse. Alors attends,
juste une chose, Mickaël, c'est que oui le déséquilibre, pas de problème. Justement, comme t'as trois joueurs devant qui veulent jouer l'axe, qui se replient beaucoup, c'est justement pour ça que moi, je considère que c'est difficile de faire avec ce déséquilibre des latéraux très très offensifs dans une défense à quatre. Moi, je considère qu'il faudrait trois défenseurs centraux et six latéraux, comme leur nature est offensive, pour renforcer
le milieu. Et tu places les trois devant?
Merci.
Je passe les trois devant dans l'axe.
Allez, Viknesh, avant la pause, la première.
Moi, c'est qu'en fait, là, on a un
terrain
qui est bouffé. C'est déjà le cas, donc de toute manière, ça ne changera pas grand chose. Donc, le problème, c'est que moi, je trouve que les trois devant, ils ne vont pas défendre. À partir de cette base-là, il faut mettre 7 joueurs qui vont se.
C'est pas
faire...
totalement vrai. Hein.
Bah, ouais, oui,
moi, Mbappé, Neymar.
Neymar défend pas mal cette année.
Neymar défend beaucoup, Mbappé, il a fait pas mal de retours.
Oui, heureusement, parce que sinon, c'est compliqué. Mais après, parce que Draxler, de toute façon, hier, c'était compliqué. Donc là, il fallait que Mbappé fasse le travail quand même. Mais dans les gros matchs, moi, je répète encore une fois, le PSG.
Mais c'est quoi des gros matchs? C'est quoi des gros matchs?
City, Leipzig,
etc. Justement, t'as concédé beaucoup d'occasions.
Est-ce que c'est normal?
Laisse-le terminer.
La dernière chose que moi je demande et que je pose la question, est-ce que c'est normal de concéder plus d'occasions chaque fois que l'adversaire? Et chaque fois, l'homme du match, c'est le gardien. C'est Donnarumma ou Navas avec 5, 6, 10 arrêts parfois, pourquoi pas?
Merci,
et le PSG a très peu d'occasions.
Tu gagneras pas la Ligue des Champions en laissant en tour d'occasion.
Allez, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec monsieur Nicolas Paquet et sans oublier aussi la NBA. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause, toujours en compagnie de Viknesh, Louis-Marie, Mickaël qui fait son grand retour, sans oublier Abdel, le numéro du standard, on le rappelle, pour avoir la réalisation avec Giovanni et Yanis, le 01 53 48 3000. Voilà, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez, place à la NBA.
Time Sport. Le duel.
Il y en a eu des duels, en tout cas en NBA. Les Warriors qui battent les Lakers malgré un LeBron James en feu et un Stephen Curry aussi maladroit. Le Marie, les Bucks aussi qui battent les Brooklyn dans le match d'ouverture. Et Westbrook déjà critiqué. Eh oui, notamment par les amoureux, mais aussi ses bootmakers contre les Golden State.
Bah, effectivement, pour une soirée d'ouverture de NBA, ça a été assez intéressant parce que on avait les deux ultra favoris que sont les Lakers et les Nets.
Ouais.
Les deux effectifs les plus denses avec énormément de All-Stars.
New York,
ouais. C'est assez incroyable les effectifs qu'ils ont. Et ça, les deux ont chuté. Alors autant pour les Nets, je suis pas trop inquiet parce qu'il y a une alchimie qui va se mettre en place, je pense, petit à petit. On voit la cohérence du roster, même si l'absence de Kyrie Irving risque d'être un peu particulière. On pourra revenir sur Kyrie Irving qui a accepté de pas jouer de la saison pour pas se faire vacciner. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et de l'autre côté, les Lakers, en revanche, je trouve que cette équipe, elle est mal née. Alors c'est vrai que c'est fou de parler de ça après un match alors qu'il y a 82 matchs dans la saison régulière.
Bon, c'est le début, hein.
C'est le début?
Ouais.
Mais, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Moi, cette idée où, cette compatibilité entre
Westbrook,
James et comment il s'appelle dans la peinture. Bon bref, j'ai un peu de mal à la voir.
Le King LeBron dit qu'aussi beaucoup de choses ont dû se bousculer dans sa tête.
Mais c'est les joueurs qui ont envie d'avoir la balle. En fait, le problème c'est que Russell Westbrook, c'est un soliste qui a toujours fait le show tout seul dans des équipes un peu plus petites et qui tournait autour de lui. Là, il va falloir qu'il s'adapte dans une équipe où il n'est pas le patron et où c'est pas lui la première option non seulement de shoot, non seulement de, mais également pour la création du jeu. Et j'ai l'impression que ça pourrait mal se passer, cette équipe. Enfin, à voir. Hein.
Affaire à suivre, en tout cas, concernant le début de championnat nord-américain de basketball qui est la NBA. On revient sur le Paris Saint-Germain.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Ah oui, Viknesh, on aimerait qu'un club français, mis à part les Lillois ou le Paris Saint-Germain, soulève une nouvelle fois cette fameuse coupe aux grandes oreilles pour le plus grand plaisir d'Abdel et de Mickaël. On va voir si ça sera aussi le grand plaisir d'un certain Jouba qui nous appelle depuis La Réunion. Viknesh, on t'écoute.
Bah, pour Paris, oui, c'est possible parce qu'ils sont premiers de leur poule. Ils sont invaincus. 2 victoires, 1 match nul. Donc, mathématiquement parlant, au niveau des chiffres, ils sont très bien. Mais après, comme j'ai dit, c'est toujours au niveau du jeu. Le PSG, on sait pas où ça va. Pochettino, il est là depuis le mois de janvier quand même, ça commence à faire un peu de temps.
Ouais, et ça fait bizarre là, si on ne sait pas où ça va, hein, bon, surtout avec Léo Messi quand même dans l'équipe.
Messi en fait, lui il est là pour faire l'éclair de génie. Lui, on sait que dans
Il a fait
une ou deux fois, il peut faire la différence. Et c'est ce qu'il a fait les deux dernières fois en Ligue des Champions. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, Pochettino quand même, il faut qu'il mette en place un fond de jeu, une empreinte. Il n'a rien. On l'a critiqué d'autres entraîneurs.
Il n'y a pas de fond de jeu.
Pochettino, il n'y a rien. Avec Tourelle, on a vu au début, il a fait quelque chose, ça n'a pas marché. Emery, on a vu, il a fait quelque chose, ça n'a pas marché non plus. Donc, Laurent Blanc,
limite bon, Laurent
ça
Blanc,
a marché
hein.
un peu. Donc, mais là, Pochettino, on n'a rien vu. Dans les gros matchs, on sait, il faut défendre. Et imaginer et espérer que Navas ou Donnarumma sortent un gros match et soit un miracle. Et après, c'est aléatoire. Mbappé, Neymar, Messi, bah, faites la différence. La balle, elle est dans vos pieds. Vous êtes des magiciens. Il faut marquer un moment ou un autre. Et heureusement que ces joueurs sont efficaces. Ils sont cliniques devant la cage.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Il y a quand même beaucoup de.
C'est plutôt les milieux de terrain qui marquent depuis le début de la saison.
Oui, le 0-1. Allez, le 0-1, 53, 48, 3000. Jouba, bonsoir. Comment ça va?
Bon avis, Verratti.
Salut les gars, salut tout le monde. Très 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 bien, j'espère que vous aussi du coup.
Ah ben nous aussi Jouba, à Paris ça va bien.
Quel temps ici?
Ouais, un peu nuageux Jouba.
Bon, 30 degrés à Paris.
Oh, faites pas jalouser Jouba, les auditeurs de Beurre FM, on vous écoute.
Eh oui, c'est vrai qu'ils écoutent de partout, les auditeurs à Marseille, ça doit faire beau quand même dans le sud. Moi j'étais au standard, alors. J'étais en train de m'arracher les cheveux parce que heureusement Viknesh est revenu là-dessus, mais en fait au PSG, c'est quoi le problème? C'est sous-coach qu'on enchaîne depuis des années, qui ont soit gagné des sous-coupes, soit qui sont des gros losers dans le football mondial. C'est quoi? On nous recrute un Pochettino qui a été un loser en finale de Ligue des Champions. On nous recrute un Unai Emery qui a gagné 3.
Bon, avec Tottenham quand même, en finale de Ligue des Champions avec Tottenham, faut quand même le souligner.
Comment?
Finale de Ligue des Champions avec Tottenham quand même.
Oui, mais il a perdu.
Mais d'accord, mais bon, c'est déjà on est Tottenham en finale de Ligue des Champions. Quand tu connais le palmarès de Tottenham, c'est déjà quand même pas mal.
Non, c'est pas. Moi, je veux pas. Le PSG n'a pas à avoir des sous-coachs dans son collectif, dans son équipe. Là, on enchaîne ça.
Enfin, on parle de. Là, tu parles de coachs qui ont quasiment plus de palmarès européens que le club en question. Hein. Que ce soit Emery ou.
Le PSG n'envisage pas de gagner une Europa League. Il n'envisage pas de finir finaliste de Ligue des Champions.
Ça serait bien qu'il s'habitue à gagner des trophées européens avant d'être trop ambitieux.
Un coach qui soit en capacité de faire gagner. Et là, depuis janvier, ça a été dit. Heureusement que ça a été dit jusque-là. Parce que moi, en standard, je suis en train de péter des câbles.
Non, il faut rester cool.
Janvier, on va lui laisser combien de temps? On sait que le PSG a des exigences très
Après, il a gagné 76% de ses matchs. Eh bien, alors c'est facile de virer un mec. Tu mets qui à la place?
On est en Ligue 1 aussi, les gars.
Comme il dit Louis, Louis-Marie, il n'y a pas non plus beaucoup d'options à chaque fois sur le marché. C'est vrai que
Zidane a refusé le PSG.
Paris, c'est un contexte très difficile pour des mecs qui, je pense, n'ont pas totalement leur mot à dire à chaque fois sur les joueurs à acheter, etc.
Le PSG, c'est un problème de gouvernance, pas d'entraîneur.
Bien évidemment. Dans tous les cas, on l'a. Moi, je l'ai répété assez de fois. Je pense que les choses.
Allez, vas-y, Abdel.
Les plus dit autour du plateau, c'est. À un moment donné, peu importe le coach, c'est vrai que avec la puissance et la force de frappe du PSG, à un moment donné, les joueurs, ils vont bien réussir à se mettre au diapason eux-mêmes et à se dire, on va aller chercher
le
titre qu'on veut avoir parce qu'on n'a pas besoin du coach pour nous pousser.
Oui, non, mais à un moment, tu peux pas juste compter sur les joueurs. Au-delà du coach, il faut cohérence sportive au niveau de la direction. Et on a un auditeur qui nous explique que les entraîneurs sont des losers. Bah, moi, je sais pas. Moi, je vois Thomas Tuchel. Il est parti du PSG, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc, c'est peut-être pas sans un loser que ça.
Avec les Bleus.
D'accord, mais là, sur Tuchel, il peut y avoir un équipe. Non, mais c'est pas la question.
Allez, vas-y, Jouba.
Je demande juste. Qu'est-ce qu'en fait va apporter un Pochettino à cette équipe-là?
Mais arrêtons de lui changer son effectif toutes les 5 minutes et laissons-le choisir ses joueurs.
On laisse terminer, Jouba.
Je veux juste dire, tu mets un Zidane ou un coach de l'envergure de Kant ou de Pochettino, Kanté ou je ne sais pas.
Mais Kanté, il n'arrivera jamais avec cet effectif, je te le dis tout de suite.
Je peux t'assurer qu'il n'y arrivera plus que Pochettino ou Unai Emery ou tous les plots.
Alors, Kanté, il a quoi comme palmarès européen par rapport à Emery et Tourelle? Ça m'intéresse.
Oui, il a pas gagné l'Ex-Juve.
Il a quoi comme palmarès européen à compter par rapport à tout, par rapport à Tourelle ou Emery?
Il en a autant que Unai Emery. Et
ah bah non, il a rien gagné. Emery, c'est 4 coupes d'Europe et Tourelle, c'est une Ligue des Champions. De quoi on parle?
Oui, mais et Pochettino, il a gagné quoi?
Ah non mais tu parles, tu me dis.
Et puis tu parles de compter, c'est quand même un caractère assez sulfureux.
Et un style de jeu très particulier.
Ça colle jamais.
Un style de jeu très particulier où c'est lui qui doit choisir ses joueurs. Où c'est il était en bisbille avec les directions de l'Inter, il est parti, il a claqué la porte. Donc
non mais compter dans cet effectif, ça marche pas.
Avec que ce soit avec l'effectif ou avec la direction.
Mais oui,
la direction, c'est. Il faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, ça le problème, c'est que tu peux pas.
Mais Zidane, il veut pas.
Le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, tu peux pas mettre n'importe quel coach.
Il a pas voulu cet été. Mais je pense que si tu mets l'énorme pognon, au bout d'un moment, Zidane, il va craquer.
Non, pas d'agrégat, je crois pas. Je pense pas que ce soit une question pas, d'argent. C'est des mecs de l'argent, ils en ont à couvert. Ouais, je pense que
c'est bien, clair, quand c'est tu, Zidane.
Quand tu veux aller dans des nouveaux projets, tu t'assures que quand même tu vas être assez libre de tes choix.
Zidane, il va être le patron.
C'est ça. Paris, le plus important, certes, avoir un meneur d'homme qui va pousser ces mecs qui ont déjà plein de talent, ce serait le mieux plutôt qu'un mec qui va chercher la bonne fibre tactique, etc. Mais à un moment donné, si t'es dur avec tes joueurs et que tu vas les sanctionner, etc., mais que la direction elle dit non, tranquille, il a eu seulement un petit écart, etc., au final, les mecs ils vont
dire tant qu'on est dans un club où un joueur va insulter son entraîneur, tout va bien.
On en revient à si les joueurs sont plus hauts que certaines personnes de l'institution et l'institution elle-même, ce sera mort. Les Allegri, les Conte, les Zizou, les Ancelotti, etc.,
mais tu peux mettre qui tu veux. Tu
là, t'as que des mecs qui peuvent être drivés par les joueurs et par la direction et qui disent amen à tout.
Pour moi, le problème du PSG, il s'appelle El Raifi.
Non,
pas lui.
Ah si,
non,
pour moi c'est clairement lui le problème au PSG. C'est un mauvais président.
El Khelaifi n'est que le représentant d'une politique qui est menée.
Oui, ça n'existe pas.
Donc d'accord, donc c'est un homme de paille, donc il sert à rien. S'il y avait un vrai président avec une politique à mettre en place, ça serait pas le même.
Écoute-moi bien, El Khelaifi n'a jamais servi à quelque chose au PSG. El Khelaifi ne sert à rien.
Mais bon, ça selon toi, Jouba, c'était propos, Jouba.
Bilal, je les propose, tu crois du PSG.
Bien sûr.
Je l'affirme ce soir en direct. Khelaifi n'a jamais servi à quoi.
C'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il est contre-productif dans son attitude avec les joueurs.
À la base, il était même pas là pour ça. El Khelaifi, c'était quelqu'un qui était bon dans le business. Paris venait mettre le Qatar venait mettre son nom sur la capitale, gérer un peu tout ce qui est le business, etc. Et après, on l'a mis dans le côté football où il a été très très en difficulté parce qu'il connaissait pas. Après, je trouve qu'il a quand même fait des progrès. Il a fait de moins en moins de sorties
Excuse-moi, regarde la sortie cet été sur Mbappé, c'est une erreur de communication majeure. De dire que Mbappé ne partira pas même libre, regarde la réaction que ça a eu sur Mbappé. C'est juste n'importe quoi de dire un truc pareil.
On termine avec Juba sur le Paris Saint-Germain avant de prendre l'invité. Juba, rapidement.
Al Khelaifi était dans son devoir d'intervenir parce que c'était remettre l'église au milieu du village, c'était montrer que le PSG était fort dans ce dossier-là. Et que
c'est pas vrai, donc c'est ridicule. Il passe pour un con.
Tu dis les choses, ça dépend.
Bien sûr que si, il n'est pas parti. Donc le PSG.
Non, c'est pas le fait qu'il parte pas cet été, c'est qu'ils disent qu'il partira pas gratuit.
Il partira jamais.
Il a dit qu'il partira jamais gratuit. C'est ridicule parce que c'est pas le PSG qui a la main là-dessus. Si Mbappé pour envie de partir gratuit, il partira gratuit. Donc il s'est décrédibilisé aux yeux de toute l'Europe. Al Khelaifi, et il s'est mis Mbappé à dos parce que toi, t'as des sources, moi aussi j'en ai. Il s'est mis Mbappé à dos sur cette phrase-là. Il y a beaucoup de le joueur parisien.
Merci Juba. Alors on termine Juba.
Donc là-dessus, rapidement. Après, le match était quand même. C'est un match à réaction. Le PSG est une équipe en totale autogestion. C'est pas nouveau.
Grâce à Messi.
Quand tu vois que ça passe toujours de la même façon, c'est-à-dire ils ont le dos au mur et après qui rebondissent. Et ça, c'est le symptôme même d'une équipe qui est en
totale autogestion. Juba, j'ai une question.
C'est terminé, on n'a plus de questions. Tu vas garder ta question pour l'invité qui arrive.
Merci Juba d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM au 01 53 48 3000. Allez, on prend la direction de l'interview de ce soir.
Time Sport, The Special One.
Bonsoir Nicolas Paquet, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Super sympa d'être avec nous sur l'antenne de Beurre FM, entraîneur d'handball, et on rappelle qu'il réalise le premier playbook d'handball aux éditions Amphora. Voilà. C'est vrai, vos heures perdues, vous mettez en place, vous écrivez des livres, et c'est tout de même votre troisième roman qui vient de sortir, si je m'amuse. C'est bien cela.
Alors, en fait, j'ai... vous m'entendez ?
Oui, très bien. Super.
Super. Le handball, c'est un métier passion, hein, totalement. Ouais. Et j'ai aussi la passion de l'écriture, en effet. En tout et pour tout, j'ai sorti 3 romans et 2 livres sur le, sur le handball, dont le Handball Playbook aux éditions Amphora récemment.
Justement, le Handball Playbook, c'est vrai que l'on voit, on a vu récemment, sur une autre maison d'édition, c'était Carlo Ancelotti qui mettait un peu des faces assez similaires que le vôtre de ce playbook consacré au monde du handball. Mais c'est vrai que sur les universités américaines, concernant le basket, on en parlait, de NBA, mais aussi sur le football américain, on voit pas mal d'ouvrages similaires au vôtre. Aujourd'hui, pourquoi avoir eu cette idée de mettre en place, ne serait-ce rien que le premier playbook consacré au handball, mais est-ce que le handball français va mal? Pourtant, on n'a que des titres avec nos filles et nos garçons.
Oui, le handball français va plutôt très très bien et du coup, je suis très très content de pouvoir être l'auteur de ce premier handball playbook. En fait, je suis un passionné de tactique dans le handball, mais dans tous les secteurs. Et j'ai cherché en vain, même à l'étranger, des livres avec des recueils de tactiques et j'ai jamais trouvé dans le handball. Alors j'ai vu que ça s'appelait des playbooks au niveau du foot américain, au niveau du basket. Ce livre existe depuis de longues années.
Ouais.
Et quand est arrivé le premier confinement, j'ai cherché aussi une petite occupation et je me suis dit pourquoi pas si personne l'a fait et tenter de le faire. J'ai proposé le projet à Amphora qui a tout de suite
adhéré quoi.
Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, on est parti dans cette aventure qui était une superbe aventure. Ça allait très très vite. Hein. En 8 mois, c'était plié. Et voilà.
Abdel, réaction avec Nicolas, notre invité ce soir.
Nicolas, justement, vous le disiez, l'équipe de France, que ce soit masculine ou féminine, marche sur le handball depuis quelques années, enfin depuis des années.
La France,
maintenant,
ouais, très bonne.
En général, est-ce que vous pouvez nous parler, pardon, de la formation française de handball, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est aussi bon?
Oui. Mais je pense qu'il y a un maillage du territoire qui est assez important, c'est-à-dire que au niveau des comités, il y a une détection de fait, au niveau des équipes départementales qui est très très jeune et qui c'est un premier vivier. Et puis ensuite au niveau régional, et on a des structures d'encadrement après au niveau des pôles espoirs qui sont de très grande qualité, des centres de formation de très grande qualité. Il y a une vraie passion de l'entraînement dans le handball au niveau des entraîneurs. Faut pas oublier que c'est un sport scolaire aussi qu'on retrouve régulièrement dans les programmes. Donc si
les jeunes aiment beaucoup,
ça donne l'envie aussi de pratiquer cette discipline.
Ouais.
Et je pense que là où la France est forte par rapport peut-être à d'autres nations aujourd'hui,
alors, c'est
dans toute la filière de formation en amont, en fait, qui permet de détecter et de laisser passer le moins de pépites possible.
C'est assez amusant. Vraiment, si je peux vous titiller, Nicolas, ce soir, parce qu'on a des problèmes à l'approche de Paris 2024 sur cette fameuse formation, sur l'excellence dans le domaine scolaire et alimenté par le sport aussi, comparé à nos voisins germains, l'Allemagne ou encore anglo-saxons, les Royaume-Uni ou même les Américains. On a un petit peu un petit problème encore dans cela. Et là, vous êtes en train de nous dire que quand même la formation, elle est belle, bien sûr, que ça soit dans le handball, le rugby ou même l'ovalie. Aujourd'hui, on a ce petit problème quoi de encore évoluer, être assez sûr. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors je suis assez partagé parce que il y a des disciplines qui fonctionnent quand même très 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 bien. Je prends le handball, mais on peut regarder le judo. On a régulièrement des résultats de très très bonne qualité.
Ouais.
Peut-être qu'après, d'autres fédérations françaises pourraient s'inspirer de la fédération de handball ou de la fédération de judo par rapport au schéma de construction. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je suis assez partagé. Il y a quand même des secteurs qui fonctionnent très très bien aujourd'hui, peut-être d'autres qui sont à revoir, mais en tout cas, il y a quand même des choses positives.
Bien sûr, on les garde en tout cas, tout comme votre playbook, on le rappelle, aux éditions Amphora. Oui, Louis-Marie, réaction?
Moi, je voulais justement revenir un petit peu sur Nicolas en particulier.
Alors,
du coup, votre playbook, c'est quoi l'objectif? C'est vulgariser la tactique de handball pour les coachs, ça s'adresse à qui concrètement?
J'ai envie de dire à tout le monde, hein, puisque je suis là pour faire la promotion de mon livre. Même vous, si vous voulez, il y a des pages vierges, vous pouvez faire des dessins, donc il n'y a pas de problème. Non, pour
pour être plus sérieux, moi, j'ai essayé de reproduire le produit que je cherchais, en fait. C'est-à-dire un recueil de tactiques facile d'accès et prendre en compte que beaucoup d'entraîneurs ne sont pas forcément professionnels et n'ont pas forcément le temps de réfléchir à comment mettre en place une certaine action, par exemple, pour attaquer un tel type de défense. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez accessible à tout le monde, et quand, n'empêche que à force de mettre des situations, en fait j'ai repris les projets de jeu que j'avais, j'ai repris les projets de jeu des adversaires que j'ai pu rencontrer et observer, ce que j'ai pu voir à la télé également, ce que j'ai appris aussi en formation, et ça commence à faire après beaucoup de tactiques. On arrive à 130 tactiques, donc c'est un nombre assez important, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'idée c'est de permettre à un entraîneur d'avoir sortir le livre de son sac. Voir comment on attaque une défense 1-5, tac, ah ouais, cet enclenchement me plaît pas mal, ça correspond un peu à mes joueurs, aux qualités de mes joueurs, et à partir de là, hop, c'est l'idée de le mettre en place rapidement à l'entraînement, en fait.
Mais du coup, alors, oui, Abdel, oui,
oui, justement, alors, par rapport à ça, votre livre, est-ce que dans, vous parliez des coachs justement à qui ça s'adresse, est-ce que dans le monde pro ou semi-pro, on laisse la chance à de jeunes coachs dans ce domaine-là, dans le hand?
Oui, il y a des jeunes coachs qui arrivent à faire un peu leur marque. Après, on commence à voir apparaître quand même, enfin, de plus en plus, ça existe déjà, mais de plus en plus, ce que je trouve des fois un peu regrettable, c'est une starification, c'est-à-dire des anciens joueurs qui peuvent vite reprendre des équipes, alors qu'il y a des jeunes coachs qui font un très bon travail également. Donc voilà, bon, après, ça fait partie du jeu aussi, de la communication et de la médiatisation de notre sport.
Ouais.
Mais on arrive quand même, on peut quand même, à force de travail, à avoir notre chance aussi à nous exprimer.
Alors, on termine avec Louis-Marie.
Bah, écoutez, moi, je voulais aussi vous parler de votre métier de coach au quotidien. C'est quoi votre actualité maintenant? Vous êtes toujours entraîneur en D2 féminine, il me semble?
C'est ça. Je suis entraîneur du plus petit budget de D2. On est monté il y a 2 ans et on essaye de se bagarrer pour se maintenir. Et j'ai l'occasion de venir jouer à côté de Paris, à Saint-Maur des Cités.
Juste à côté de notre studio, il faudra venir la prochaine fois, Nicolas. Et on l'espère pour vous et les filles. Voilà, du courage aussi. Du courage dans ce club. Et un grand merci pour cette disponibilité et toutes ces fameuses réactions. On le rappelle, Nicolas Paquet, Handball Playbook 130 tactiques d'attaque assez détaillé, choisir le meilleur système de jeu idéal aux éditions Amphora. Un grand merci, Nicolas.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On va revenir rapidement avec Karim Benzema.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour pour la dernière partie de cette émission Time Sport, votre quotidienne sur l'antenne de Beurre FM, 20h, 21h chaque jour, en compagnie de Louis-Marie, Viknesh, sans oublier Mickaël et Abdel. Allez, place à Karim Benzema et le Real Madrid.
Time Sport, le mode pressing.
Exceptionnel, et oui, Viknesh, depuis le début de saison, remportant cette fameuse Ligue des Nations avec l'équipe de France et la bande à Didier Deschamps, Karim Benzema peut enfin peut-être compter sur un partenaire offensif de niveau. Et oui, Vinicius Junior. Peut-être.
Ouais, mais Vinicius, hier, il a mis un petit doublé, 2 beaux buts, en plus, c'était sympathique. Une belle victoire du Real 5-0, et Benzema qui marque le 5e but, parce qu'il peut pas passer un match sans marquer, bien évidemment, parce que Benzema, il marque énormément, et depuis cette année, il est incroyable. Et oui, c'est encore un autre match où Benzema montre tout l'étendue de son talent, passeur, buteur, maître de l'équipe, leader technique, même leader au niveau du vestiaire. Benzema, il est à l'opposé de sa carrière depuis quelques temps, il est au top. Il y en a beaucoup qui parlent du Ballon d'Or, pourquoi pas pour Benzema? Pourquoi pas? Il a gagné un titre et il est très bon. Ouais. Donc,
tu parles de titre, alors, on parle de Ligue des Nations.
Il y a
un truc qui était amusant hier.
C'est pas mal, ouais.
Ce qui est amusant hier, on voit que le Real est en campagne, même dans sa gestion des matchs.
Ouais.
À quel moment ta star offensive est, alors que tu mènes 4-0, est encore là sur la pelouse à la 90e minute.
Avant le classico, il est uniquement là
parce qu'il a pas marqué. Et donc là, le Real est en campagne pour lui obtenir ce Ballon d'Or, qui effectivement il pourra avoir. Moi, honnêtement, très sincèrement, c'est pas le candidat que je soutiendrai le plus, même si je le trouve extraordinaire.
Ouais.
Parce que je considère que
Lewandowski, Léo Messi.
Moi, Lewandowski, bien sûr, parce que moi je considère que il est complètement injuste qu'il ait pas eu de Ballon d'Or en 2020.
Ouais, et alors,
moi,
si j'avais nous écoute, il arrête tes conneries.
Moi, voilà. Si j'avais été,
ça, non, c'est mais... la réaction de Yassine. Mais...
Moi, si j'avais été France Football, j'aurais dit cette année exceptionnellement, le Ballon d'Or est donné sur 2 ans, sur 2020 et 2021. Et du coup, Là, pour le, ça serait indiscutablement Lewandowski, parce qu'il a, il a survolé 2020, il a tout gagné.
Il survole encore.
Il survole encore, mais disons que il est, il a moins marqué dans les grandes grandes compétitions. Enfin, il a moins marqué parce qu'il était absent en fin de Ligue des Champions et que l'Euro, bah, l'Euro c'est pas trop une ça, petite là. Équipe. Donc après, pour moi, Lewandowski est le plus légitime. Moi, mais bon, Benzema se ferait un beau Ballon d'Or. Moi, ce qui m'énerverait surtout, c'est ce soit Messi qu'il est.
Ouais, Mikael Abdel
et Marcelo Jorginho.
Ben, comme l'a dit Viknesh, t'as l'impression qu'il est arrivé à une sorte de pleine maturité, Karim Benzema. Après, moi, ce qui me dérange, moi, ça me dérange pas forcément, mais je trouve qu'il est assez peu quand même entouré du côté du Real Madrid.
Ouais.
Ça reste, certes, Vinicius hier, il a marqué un doublé. Maintenant, ça reste trop inconstant. T'as un peu l'impression que bah, c'est le patron, mais il n'y a pas de vrais joueurs intermédiaires.
Mais parce qu'ils ont choisi la reconstruction,
ouais, exactement,
aussi.
Exactement. Mais je pense que dans un collectif avec de plus grosses têtes de gondole en attaque, parce que.
Ah, quand il a eu les très grosses têtes de gondole, il marquait moins parce que c'est les têtes de gondole qui marquaient aussi.
Ouais, mais le truc, c'est que là, tu vois que le Real gagne moins de titres.
Bah, c'est on est d'accord. Mais donc, est-ce que c'est un joueur qui peut faire gagner des grands titres à une grande équipe tout seul? Je sais pas.
Bah, ça dépend des joueurs qu'il y a autour de lui. Parce que là, normalement, là, Hazard et Bale, enfin, si un jour ils veulent jouer au foot.
Bah, ils veulent plus jouer.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si un jour ils veulent jouer au foot, ils peuvent l'encadrer, l'entourer.
Bale, il joue au golf cette année. Donc,
il a que Laurent Blanc et tout ça.
Mais quel fait sourire.
Là, du coup, il est entouré par Rodrigo, Vinicius. Certes, ça reste deux bons futurs joueurs, mais actuellement, c'est pas des phénomènes.
Abdel.
Ouais, par rapport à Benzema, en fait, l'histoire du Ballon d'Or, ça reste toujours compliqué parce que on te dit qu'il faut des titres, gagner des titres en gros collectif. Après, on te parle de tes statistiques individuelles. Il a mis 11 buts en 11 matchs avec 8 passes décisives. Ça veut dire que, est-ce qu'il peut faire gagner des matchs? Oui. Après, sur la longueur des titres, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais.
Lui, mais les titres, ça dépend pas que de toi, ouais, comme disait Mickaël. Hein.
Lui est au niveau. Hier, il rentre dans l'histoire. Il est cinquième, enfin quatrième ex aequo dans les buteurs du Real Madrid. C'est quelqu'un comme tout le monde le dit, qui plus il vieillit, plus il est fort, plus il est bon. C'est quelqu'un qui a une mentalité franchement irréprochable. On l'a jamais entendu, que ce soit à Lyon, qu'il était starifié dès le plus jeune âge.
On est d'accord qu'il a une fausse image, ce joueur.
Franchement,
il a une fausse image.
Et honnêtement, c'est vrai que pour moi, c'est un. Comme beaucoup le pensent, je pense que c'est un candidat au Ballon d'Or.
Ouais.
Totalement, il est totalement légitime. Mais après, comme le dit Louis-Marie, quand Lewandowski, avec le Bayern qui gagne tout, et surtout lui qui écrase et qui bat le record de Gerd Müller,
alors
Messi qui a gagné une Copa América, qui n'a jamais gagné un titre avec son équipe, et ben je pense qu'il lui passe le nez devant, mais.
Mais pas beaucoup.
Abdel
a bien résumé une chose.
Il a bien résumé, Abdel, selon Louis-Marie.
Plus équilibré.
On est d'accord.
Sur les trois, excuse-moi, Louis-Marie, mais tu sais, sur les trois points, je pense qu'il devrait être égalitaire et pas deux devant et un juste derrière.
La réalité, pour moi, c'est que sur les deux grands critères, c'est les titres et les statistiques. Il n'est premier dans aucune des deux catégories. En statistiques, c'est Lewandowski, et en titre, c'est d'autres joueurs.
C'est
Jorginho, mais même Messi qui a gagné un titre, d'autres joueurs lui passent devant, vu qu'il n'a pas gagné de titre. Du coup, est-ce que c'est possible d'être le Ballon d'Or sans être le meilleur joueur de ton pays en championnat, parce qu'il n'a pas été le meilleur joueur de la Liga, sans être le meilleur statistiquement, sans être le meilleur en termes de titres? C'est un peu compliqué. Il est bon partout, mais
compliqué selon Louis-Marie. Mickaël, d'accord avec ça?
Je rajoute aussi Louis-Marie, en plus des titres et des statistiques, il faut aussi une certaine image.
Médiatique. Ça te plaît, les images? Les images Panini?
Il est pas assez starifié.
Il est starifié, mais beaucoup moins que certains autres joueurs.
Alors.
Par exemple, si on parle vraiment purement en termes de titres, un joueur dont on parle jamais, c'est Jorginho, qui a gagné l'Euro avec l'Italie en tant que joueur majeur et qui a gagné les champions avec Chelsea en tant que joueur majeur.
Jorginho, plus important. Mais tu préfères Karim Benzema dans le jeu? Jorginho, la question.
Mais tu préfères avoir qui dans ton équipe cette année?
S'il te plaît. Jorginho, plus important. Mickaël, tu m'écoutes? Mickaël, parce que la question, là, me revient des auditrices, des auditeurs. Jorginho, plus impactant que Karim Benzema dans le jeu?
Ah non, c'est pas ce que je disais. Moi, je te dis.
Non, juste, c'est une question. C'est une question. Voilà. Merci d'avoir répondu.
Non, clairement pas.
Tu parles de Jorginho, c'est vrai que c'est un joueur qui a gagné des titres, mais.
Il a gagné.
Il a été maître de son équipe très fort.
Pour faire le parallèle avec ce que tu dis sur l'image de.
Xavi a gagné. Iniesta a gagné aussi.
Sur l'image de star, c'est pas quelqu'un qui.
Sauf que Xavi et Iniesta a impacté leur équipe.
C'est pas quelqu'un qui est mis en avant.
Jorginho impacte moins. Moi, ce que je dis juste, c'est que pour moi, cette année. Pour moi, la définition du Ballon d'Or, ça devrait être sur cette année, sur l'année qui vient de se passer, qui auriez-vous voulu dans votre équipe sur ses prestations? moi, c'est jamais Jorginho.
Ouais.
Même si c'est un très grand joueur. Bah, excuse-moi, alors, je pense que si je dois construire une équipe, je commence pas par Jorginho.
Ouais.
Je peux commencer par Messi, je peux commencer par Lewandowski, je peux commencer par Benzema, je peux commencer par beaucoup de joueurs, mais pas par Jorginho.
Il était le régulateur de l'équipe.
Il était au bon endroit, au bon moment.
Ouais. Non, tu peux pas dire ça, Lewandowski. Big Flash
et Michael.
Non, parce que, enfin, Jorginho, ça a été le maître nomme, ça a été le régulateur de Chelsea et de
C'est ni le meilleur joueur de Chelsea, ni le meilleur joueur de l'équipe d'Italie.
C'est qui le meilleur joueur de chaque fois, alors?
Alors, excuse-moi, le excusez-moi, j'ai vu que le meilleur joueur de Chelsea, c'est Kanté, parce qu'il est élu meilleur joueur de la finale, meilleur joueur des deux demi-finales. Le ballon d'or de l'Euro.
Edouard Mendy aussi.
Edouard Mendy aussi. Le meilleur joueur de l'Euro, Jorginho n'est pas cité, c'est Donnarumma. Et sur le terrain, il n'y a pas que lui.
Il
y a Chiesa. Donc, très sincèrement, quand tu n'es pas le meilleur joueur de deux équipes, t'es un des meilleurs, certes, t'es peut-être le troisième ou le quatrième.
Dans une fourchette.
Voilà, t'es le troisième ou quatrième joueur de l'équipe, tu peux pas être numéro un du monde.
Un auditeur nous dit, Jorginho, c'est Khedira 2014 en Italie.
Non, mais
s'il vous plaît.
Ah bah, il était énorme,
Khedira. C'est pas du tout le même style de.
Bah oui, c'est pas tout la même chose.
Mais on revient, Michael, messieurs.
Non mais après moi j'ai lancé un débat sur Jorginho mais
bah c'est bien c'est bien pour ça
je donnais juste exemple parce que
il y a pas de débat
si on parle en termes de titres si parce que Viknesh elle a convaincu que tu le mets Ballon d'Or Viknesh
non je sais qu'il sera pas Ballon d'Or
non c'est pas la question
je le mets pas bien
je le mets dans le top 3 bien évidemment
est-ce que tu mets numéro 1 qu'il soit dans le top 3 si tu veux mais est-ce que aujourd'hui Jorginho est numéro 1
après c'est terrible il y a aussi une question d'image
c'est ça tu vois il a pas d'image le pauvre
non mais justement en fait tu vois c'est pas quelqu'un qui va être médiatisé ou quoi que ce soit donc forcément comme disait Lou Marie quand tu vas faire ton équipe t'as peut-être 9 joueurs qui vont venir avant Jorginho si Jorginho en plus le pauvre il devient à l'esprit
c'est ce qui non mais c'est ça en fait
Jorginho là il continue sur ses bonnes performances aussi
attendez les gars on parle du meilleur joueur du monde comment tu veux être le meilleur joueur du monde sans être le meilleur joueur de ton pays sans être le meilleur joueur de ton championnat et sans être le meilleur joueur de ton équipe
t'es même mais
Jorginho n'est pas le meilleur joueur de Chelsea ou de l'équipe d'Italie
non après c'est le meilleur Edouard Mendy il les a cités. Ouais. Il y a des mecs de devoir à Chelsea qui sont
non, mais, beaucoup, et de toute façon même ne serait-ce que les élections locales il n'a pas été élu meilleur joueur de première ligue mais, il n'a pas été élu meilleur joueur de Ligue des Champions il n'a pas été élu meilleur joueur de l'Euro si tu n'as pas été élu meilleur joueur de ta compétition tu ne peux pas être meilleur joueur du monde
il y a des joueurs qui te permettent de qui font beaucoup de travail autour de toi
c'est un super porteur d'eau c'est le porteur d'eau ultime
Jorginho qui toi te permettent de briller et je trouve que il a pas du tout ni que ce soit footballistiquement il n'est pas non plus impressionnant il régule etc.
Kanté est plus impressionnant que Jorginho
c'est un bon joueur de ballon mais c'est pas quelqu'un qui waouh tu vois parce que il fait défendre sur penalty etc. mais je suis pas moi personnellement je suis pas un grand fan et Louis Marie il disait qui tu mets parmi les trois dont on a parlé moi je mettrais par exemple pourquoi je mettrais Benzema parce que c'est quelqu'un qui collectivement fait aussi le lien avec certains joueurs qui sont pas en apprentissage au Real et même en équipe de France il a changé un peu le visage et voilà je pense que Benzema a une carte à jouer même si malheureusement j'ai bien peur que voilà
et moi je vais citer juste une chose sur
Louis Marie avant la fin de cette émission
Arsène Wenger a dit quelque chose bon il a dit beaucoup de bêtises parfois mais il a dit une chose très intéressante il a dit le mon meilleur joueur je le mets le plus proche du but pourquoi parce que ce qu'il y a de plus dur dans le football c'est de marquer des buts donc il y a un moment pour moi le débat de dire mais pour moi le ballon d'or c'est nécessairement soit un créateur de jeu soit un attaquant parce que quand on va dans les centres de formation tu les vois ils commencent tous devant les mecs forts et puis petit à petit les moins bons reculent et les meilleurs restent devant les meilleurs joueurs de foot ce sont des attaquants et des milieux offensifs point à la ligne
intéressant le Marais il en fait un peu trop le Marais
avec Nash
vas-y avec Nash on termine avec toi Mickaël
plus on est mis sous les feux de lumière et du coup on brille plus alors que les défenseurs les milieux
c'est plus dur de marquer des buts que de défendre
ça dépend pour qui ils demandent aux défenseurs
on termine avec toi Mickaël
Ramos Marquinhos autre
après Nash j'ai envie de te dire c'est un peu le but du Ballon d'Or en vrai.
C'est
mettre en lumière le joueur qui a été le plus
décisif,
avec son club. Et c'est vrai que Karim Benzema, c'est vrai qu'on fait pas de Ballon d'Or sur une carrière entière ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que ce joueur aujourd'hui quatrième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 290 buts, quatrième meilleur buteur.
Il pourra avoir un Ballon d'Or d'honneur
avec 73 buts. Non, il faut juste se rendre compte que ce que fait ce mec-là depuis 2009,
c'est incroyable.
Son début avec l'Olympique Lyonnais, c'est totalement dingue.
Une masterclass de Mickaël pour cette rentrée. Merci Mickaël, c'était bien fait ça pour cette fin d'émission. Un grand merci à Louis-Marie Viknesh et Abdel, notre consultant. Sans oublier la réalisation, la personne de Yanis et aussi Giovanni. Vous restez avec nous. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Merci encore. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on se retrouve dès demain à partir de 20h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'app.